Bon, bonsoir à tous. Je voudrais dire merci à Gérard Barras d'être venu ce soir. Il devait être accompagné de Béatrice, mais elle a eu un imprévu, elle n'a pas pu venir. Donc Gérard et Béatrice sont les fondateurs de la coopérative Art de Laine. Je voudrais vous dire que cette soirée, en fait, elle s'inscrit à la suite un peu du film qu'on a passé, pour le 60e, on me dit, à la suite du film, du documentaire français de Demain, que certains sans doute ont dû voir. Et ce film documentaire était pour lutter un petit peu contre le catastrophisme que nous annoncent un peu les scientifiques. Et donc, Demain présente plein de pistes pour justement changer un peu le monde de demain. Et je pense que Art de Laine est vraiment un exemple concret de ce qu'est demain. En fait, demain, ben, c'est hier qu'ils l'ont fait, ou c'est il y a 30 ans, hein, ou 20 ans, je ne sais plus, 30 ans, enfin plusieurs dizaines d'années. Donc je trouve que c'était intéressant parce que, en fait, leur expérience porte sur la revitalisation d'un territoire qui était désaffecté et pour donner de la valeur aux hommes, enfin retenir les hommes et favoriser l'économie. Mais bon, je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais sachez qu'on a vraiment ce soir la chance d'avoir une réalisation qui fonctionne et dont on peut, compte tenu qu'il y a plusieurs dizaines d'années, dont on peut tirer des conclusions, parce que souvent il y a des idées, mais là ce soir on est vraiment dans du concret et je crois que la démarche d'Art de Laine est très intéressante. Donc merci de nous faire profiter de votre élan et de tout ce que vous avez fait, puisque vous avancez à petits pas, mais vous avancez et vous allez loin. Voilà. Merci.
Voilà. Quand on m'a dit, je vois que c'est sérieux, les jeudis d'Aveyron, mais quand on m'a dit, est-ce que tu veux faire quelque chose pour les jeudis de l'Aveyron? Alors moi, j'ai pas trouvé ça très sérieux. Parce que moi, quand j'étais gamin, le jeudi, c'était les vacances. C'est là où on se lâchait. Et il y avait l'expression « les 4 jeudis, la semaine des 4 jeudis ». Alors là, on se lâchait vraiment. Hein. Voilà. Donc, ouais, c'est une blague. C'est curieux, ce jour. Hein. Il avait un sens, il n'en a plus. Hein. Il n'a pas de raison, ce jeudi. Voilà. Donc, moi, je suis à 4h30 de route. J'ai traversé une très très belle région, ce plateau ardéchois et puis le plateau en général, pour venir ici avec le temps qu'il fait, c'est extraordinaire. Voilà. On voyait même les Alpes de temps en temps. Voilà, donc alors la difficulté que je vais avoir, c'est qu'en gros cette histoire elle a finalement 47 ans, ça fait pas mal, et en fait Art de Laine n'est que un moment. C'est un moment de cette histoire qui a produit plein de choses. Donc je suis obligé de balayer parce qu'après, toutes ces choses s'articulent. Et aussi, ça n'a jamais changé. Ça a changé toujours de domaine, de sujet et de lieu, sans changer de pas, c'est pas des méthodes, mais des manières de prendre les choses. Ça n'a jamais changé. Et la première histoire, c'est dans les Gorges de l'Ardèche. Moi j'étais parti, j'avais fait des études, voilà, et puis au début des années 70, je croisais des gens. Et puis à l'époque, en fait, c'était, il y avait le communautaire et tout ce qui s'est passé. Et donc il y avait une espèce de. Une chose qui revient dans l'histoire tout le temps, qu'en fait, quand tout va à volo, c'est repartir d'un lieu. L'histoire du lieu, voilà, le mythe du lieu qui va faire que tout redémarre hein, dans de bonnes conditions. Et donc, j'étais dans un petit réseau qui pensait ça, et j'étais pas revenu en Ardèche, et puis moi, je connaissais beaucoup l'Ardèche, parce que adolescent, j'avais fait de l'archéologie. Et donc, on se baladait partout, c'est très riche l'Ardèche. Même c'est connu que c'est très riche, mais c'est réellement. Voilà, c'était une passion. Et donc, moi, j'ai dit à ce petit groupe de personnes qui cherchent un lieu, j'ai dit, ben moi, je vous ramène en Ardèche. Et donc, le lieu, ça a été, en fait, il se trouve que dans les gorges de l'Ardèche, il y a un hameau qui est complètement enclavé dans les gorges, inaccessible. Par les voitures, par les moyens. Il y a 600 mètres à marcher en longeant la rivière, et si on part de la falaise, il y a 200 mètres pour descendre dans l'autre, au bord de l'Ardèche. Voilà. Et j'ai amené ces gens-là, et en fait, c'est un lieu magique. Hein. Quand on voit ça, vous direz, il y a des images sur les bouquins. C'est incroyable, quoi. C'est une espèce d'oasis naturelle au milieu des gorges, avec, où il y a eu une vie foisonnante dans un lieu sous les falaises. C'est vraiment incroyable. Et donc, ben, moi, quand j'étais dans l'arc, il y a une grotte qui a donné des choses juste au-dessus du village, et donc. Il n'y a pas de projet derrière ça. Hein. On arrive, on n'a pas. On fantasme sur le lieu. Voilà. Alors en fait, une fois qu'on a dit ouais, c'est un lieu extraordinaire, on va essayer de faire quelque chose là, quand on se réveille, on se rend compte qu'il y a un sacré boulot. C'est des ruines. Il faut voir les photos initiales. On a réussi à trouver des photos qui avaient été prises avant. Par-dessus, c'est un tas de pierres avec des arbres au milieu, quoi. Le hameau, c'est vraiment, c'est rien, quoi. Voilà. Et puis, il va y voir, je vais aller vite là-dessus, parce que l'intérêt, c'est ce qui s'est passé. Donc, on finit par le maire, on va voir le maire, il nous dit qu'en gros, lui, reçoit des lettres pour les descentes de radeaux, c'est amusant, par les scouts. Les scouts faisaient des radeaux et descendaient les gorges de l'Ardèche à l'époque, mais c'était les scouts de toute l'Europe qui faisaient ça. Donc et ils cherchaient des lieux de bord de rive d'Ardèche pour pouvoir monter le radeau. Et il dit, ben, puisque vous avez peut-être un projet là, est-ce que ça vous intéresse? Et puis il s'est démarré comme ça, c'est simplement. Voilà. Et puis donc on a vu ce que pouvaient faire les groupes humains avec le scoutisme. Et après, on a connecté avec les associations, les grandes associations de chantier jeunes. Et voilà ce qui s'est passé. Alors ça, c'est la clé, en fait. C'est-à-dire qu'on avait aussi vu ce qui se faisait dans les chantiers internationaux. Quelquefois, c'était toujours pour du patrimoine. Il y avait toujours des projets précis, plutôt culturels ou autres, ou restauration de patrimoine spécifique. Quelquefois, du travail pour des communes. Et donc à l'époque c'était étude des chantiers et il y avait un catalogue parce qu'en France il y avait à l'époque 300 chantiers, 400 même à un moment, et donc ils avaient un catalogue où il fallait pour qu'ils diffusent, il fallait que chaque lieu, et nous on a été un groupe local d'étude des chantiers au départ, on a été association plus tard, et donc on n'arrivait pas, alors ça c'est déjà une réflexion. En fait, nous, on était des gens qui luttions contre l'injonction de nos parents. Hein. C'est une génération, c'est-à-dire, en fait, on essayait de se débarrasser de ça. Et quand on nous a dit de donner une vocation à ce village, dans le catalogue, on n'arrivait pas à donner une vocation à ce village. Et puis, on ne voulait pas mettre en injonction les gens qui allaient faire quelque chose là. Et la seule phrase qu'on a trouvée, c'était « ramener la vie dans un village inaccessible dans les gorges de l'Ardèche ». Et alors, donc à Paris, à l'époque, il y a une quinzaine de personnes qui font tourner cette histoire, c'est une plus grosse association de l'époque, et ils ont éclaté de rire, quoi. Ils ont dit « vous aurez personne ». C'est pas possible, on peut pas écrire un truc pareil. Mais nous, on n'avait pas autre chose à écrire, on a dit « ben si, il vient personne ». Et on a été immédiatement le plus gros chantier de France. Avec ce texte-là, ramener la vie. C'est-à-dire que nous, en fait, avec Béatrice, parce qu'en fait, l'équipe d'animateurs qui devait tenir la chose a explosé, ils sont tous barrés vu l'arrivée de ces centaines de jeunes. Nous, on a animé des camps de 100 jusqu'à 120. Le tuilage entre juillet et août, il pouvait y avoir entre 120 et 140 personnes, au milieu des gorges, sans accès, sans eau, sans rien. Donc c'est l'expérience fondamentale parce que normalement un truc pareil ça explose, ça part, c'est pas possible, c'est impossible à deux personnes de tenir un groupe comme ça. Alors au départ c'était quand même beaucoup de scoutisme qui avait sa forme d'organisation, donc c'est pas 100 personnes en vrac, quoi. Et là ça aurait été impossible. Et en fait on a eu l'intuition de responsabiliser. C'est-à-dire, on a demandé à des gens qui semblaient être plus à l'aise de dire, ben voilà, nous, on ne peut pas y arriver, aidez-nous. Et bien, ça a marché. Et donc, ça a marché, ça a produit des formes d'organisation où il fallait quand même se nourrir, il fallait ramener les matériaux, il fallait construire, il fallait, etc., etc., puis tout ce que ça veut dire. Et donc c'est là où en fait maintenant on dit en fin de, ouais, moi je suis à la retraite, hein, donc en fin de parcours d'activité intensive, que c'est notre école de management. Voilà, parce qu'en fait il fallait, voilà, alors si ça, pour donner les éléments, on a compris la valeur de l'eau, par exemple. La valeur de l'eau. Pour montrer que quand vous mettez dans des choses, et c'est ce qu'on a fait, c'est devenu un espace du possible pour les jeunes, quand vous mettez les choses, vous leur remettez dans l'élémentaire, ça produit beaucoup plus. Alors l'eau, c'était simple, il fallait aller chercher l'eau potable au village, 800 mètres, et pour alimenter, vous imaginez, un chantier de cette taille, il y avait donc pratiquement régulièrement une dizaine de transporteurs de petits jerrycans de 5 litres qui allaient chercher l'eau, qui revenaient. Voilà. Et alors quand on était en train de manger, tous les gens étaient autour, et puis il y avait la table où avait la nourriture, voilà, mais il y avait tous les bidons d'eau. Et en fait, voilà ce qu'on a vu en situation, c'est qu'en gros, si un bidon se renverse, il y a 10 personnes qui bondissent sur le bidon. Voyez. Et donc, ça a changé les choses, parce que quand on dit à des gamins, il ne faut pas que tu laisses le robinet ouvert, parce que ça coûte, c'est pas bien, en fait, c'est moralisé, ou alors c'est déco, en fait, c'est une manière d'éducation qui, avec l'eau. Là, ça se faisait de soi-même. Hein. Les choses se font de elles-mêmes, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on a vu vivre des choses qui nous ont appris. Alors, il y avait la responsabilité. Puis après, il y a une autre chose qui s'est faite. C'est qu'en gros, on n'était pas très au point. Et dans les chantiers, qui sont des petits chantiers, les jeunes arrivent un jour et ils partent le même jour. Et puis, comme ça, voilà, ça change l'équipe. Régulièrement, c'est le plus simple, administrativement aussi. Et nous, on n'avait pas compris ça au début. Donc ça veut dire qu'avec cette taille de chantier, les gens arrivaient tous les jours et partaient tous les jours. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ingérable. Et donc en fait, on a eu l'idée de demander aux personnes, aux jeunes qui tenaient des postes, de transmettre. Et qu'avant de partir, il fallait qu'ils trouvent quelqu'un et à qui ils expliquaient la chose. Donc vous voyez, il y a déjà deux choses, il y a la responsabilité et il y a la transmission. Eh bien, je vais arrêter avec ça, mais parce qu'il y a beaucoup plus, et puis il y a des livres là-dessus. 15 ans après, je me retrouve là-bas et je demande aux jeunes qui reviennent. Parce que c'est pratiquement que les jeunes qui s'occupent de ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils restent 3-4 ans, et puis ceux qui sont restés 4 ans seront les grands frères de ceux qui arrivent. Et je demande comment vous y prenez cette année, comme ça. Et il y en a un qui dit, moi, ma fonction cette année, c'est la responsabilité. Et un autre qui a dit, moi, ma fonction, moi, cet été, c'est la transmission. C'est intégré. Ça peut être aussi la nourriture. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, au même niveau. Voilà. Ce chantier, il avait passé 11 000 jeunes en 47 ans de chantier. Et c'est toujours le plus grand chantier de France, de jeunes. Et maintenant, les anciens jeunes arrivent à la retraite. Voilà, ça c'est la première histoire. Donc après, la deuxième histoire, c'est qu'en gros, en se baladant un dimanche, parce qu'on avait appris que pour faire du tourisme, autre chose, on a fait toutes ces choses-là bénévolement. On a gardé nos métiers, c'était notre temps libre qui faisait ça. Et on apprend par hasard qu'il y a une filature de laine dans une autre vallée de l'Ardèche, au milieu de l'Ardèche. Et puis on dit, tiens, on va voir. Et là, comme on arrive par-dessus, et puis même on arrive dans cette vallée par-dessus aussi, on voit des ruines partout, il n'y a pas un jeune, on n'a pas croisé un jeune. Ces vallées sont quand même, débouchent sur la vallée du Rhône et qui n'est pas loin, donc tous les gens de notre génération étaient partis. Oui. Aucun jeune. Des ruines partout, plus qu'ailleurs. Et puis quand on arrive, le village est au-dessus de la filature, elle est au bord de l'eau bien sûr, et bien, les deux tiers des toits étaient effondrés. Donc on est venu pour rien, on croyait voir une activité, voilà, quelque chose qui marchait. Et donc on descend quand même, et puis on rencontre une vieille dame qui était la propriétaire et qui était finalement en danger parce que c'était en train de partir la rivière. Et alors la suite, c'est qu'en fait, on a aidé la grand-mère, on a adopté cette grand-mère, et quand elle a eu des très grandes difficultés, en fait, on a acheté le site, mais sans projet, et puis ça n'avait aucune valeur économique, c'était rien, puisque c'était énorme, et ça partait à l'eau, ça intéressait personne, et on a acheté la grand-mère avec. Parce que sinon, elle devait partir de là, elle savait pas voler, donc en fait, c'était pour qu'elle reste chez elle. Et ça a enclenché une chose, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Mais après, on s'est organisé. Alors à l'époque, on disait qu'on faisait, parce qu'on était dans les réseaux. Alors maintenant, je donne déjà des données initiales. Nous, on est déjà dans l'éducation populaire. Et nous, on était dans des réseaux d'éducation populaire. Donc que des gens qui faisaient du bénévolat dans les milieux associatifs. Et on faisait des journées chinoises avec ces gens-là, c'est-à-dire que quelqu'un avait quelque chose à faire. On appelait chinois quand on était nombreux. C'était pas politique pour nous chinois. Ça veut dire le nombre. Voilà. Et donc, on a fait simplement en ameutant tous ces réseaux, on a calé les murs, on a fait des toits provisoires pour que ça se stabilise. Et puis à chaque fois, on gardait nos métiers et on vivait du côté des deux villes qui sont à une heure, c'est-à-dire à Aubenas dans le sud et puis Valence sur la vallée du Rhône, dans la Drôme. Et donc à force de venir, on a commencé à comprendre ce qui se passait dans cette vallée. Et c'est que des rencontres. Et après, on s'est mis en situation de chercher à comprendre pourquoi cette vallée était dans cet état. Et c'est seulement ça. Et puis on a découvert petit à petit certaines choses. Alors après, c'est intéressant, c'est de dire que en fait, on a fait fonctionner l'intelligence collective, c'est les mots de maintenant. C'était informel, on était des copains, on était jeunes, on n'avait pas de mots pour dire ce qu'on faisait. Et tout simplement parce que, en fait, à partir de ces ruines, ça nous responsabilise sur ce lieu. Et on va essayer de comprendre, et donc on va pouvoir comprendre pour la simple raison, et on appelle ça l'intelligence collective, c'est que les 15 personnes qui ont créé la coopérative, mais la petite dizaine, c'était 7-8, qui ont fondé vraiment et qui sont engagées pour tout ce que ça va faire, c'est-à-dire Art de laine, en fait on avait chacun, par hasard, des compétences complémentaires. Et c'est pour ça que ça a marché. C'est-à-dire souvent les gens s'associent par le semblable, et nous, en fait, on s'est retrouvés avec Mécano, on avait la mécanique, on avait l'électricité, on avait le bâtiment, on avait l'agriculture, on avait l'éducation, la formation, la gestion. Et en fait, on avait tout ce qu'il fallait, mais on ne le savait pas. Et c'est ce qui nous a permis de comprendre plein de choses, puisque chacun a étudié sa part dans son domaine. Et donc ça permettait de faire des synthèses sur l'état du problème, et ça a marché. Et après, comment on est rentré, on aurait pu en rester à chercher à comprendre comme on fait maintenant, et puis faire un texte là-dessus, dire, ben voilà, si vous voulez agir, il faudrait faire ça, c'est ce que font tous les gens du développement. Ben nous non, le copain qui a fait la formation agricole, quand on s'était rendu compte qu'il ne trouvait pas dans ce territoire des tondeurs, il a dit, mais moi, j'apprends à tondre. Et donc, il apprend à tondre. C'est un service qui était en montagne, avec vu l'état des routes, l'état des bergeries, les petits troupeaux, ça n'intéressait pas les tondeurs. 3-4 ans après, dans ce réseau associatif, de manière informelle aussi, eh bien, on est devenus les tondeurs de la région. On tondait tout. Tout ce que les autres ne voulaient pas tondre. Vous voyez, donc ça veut dire que dans la méthode aussi, on rentre en contact avec les gens, donc on n'a pas eu de problème nous pour aller traiter le problème ou comprendre le problème des agriculteurs. On est devenus des partenaires immédiatement, et nous on nous appelait les jeunes du nom du lieu. On était les jeunes on n'avait même pas fait une association. Alors après, ça va enclencher des choses. Comme on était devenus les tondeurs de la région, eh bien, on était invités par le syndicat au vin. Et vous voyez, donc on n'est pas aussi des gens qui sont simplement en train de faire leur truc. On était quand même, on était socialisés suffisamment. Et, Et voilà ce qui s'est passé, il faut que j'aille vite là-dessus. Simplement, on les a vus faire, on était invités à une réunion où ils douchaient les moutons avec du lindane, parce que c'était le traitement phytosanitaire qu'on fait chaque année contre les parasites. Et nous, on ne savait même pas comment, on savait rien, on s'informait de tout. Et en fait, on s'est rendu compte que dans la presse nationale, il y avait déjà des scientifiques qui disaient qu'il faudrait arrêter avec le lindane, c'est une molécule indestructible et on est le bout de la chaîne alimentaire. Et donc, ça posait une sacrée question. Nous, on avait vu des bidons de 2 litres, il y en avait une dizaine qui étaient partis dans la nature, quoi. Hein? Donc, on a vu ça et en même temps, on avait vu, et ça on ne savait même pas que ça existait en France, on avait vu des gens dans le fond de vallée, c'est 600 mètres contre le massif central, à 600 mètres d'altitude, avec des routes souvent très difficiles, des gens qui ne sortaient jamais de chez eux et qui vivaient presque au 19e siècle. Et nous, on ne savait même pas que ça existait en France. C'est-à-dire terre battue, dans la pièce centrale. Quelquefois, l'hiver, ils ouvraient la porte parce qu'ils ne pouvaient pas respirer vu la fumée. Voyez, des choses incroyables. À plate sanitaire, l'eau dehors. Vous voyez, nous, on avait des vies ordinaires de la France de l'époque. Vous voyez, donc, c'est une série de chocs qui fait qu'en fait, on a fini par être motivé pour agir. Alors, en ayant vu ça d'un côté et l'utilisation de la chimie, alors qu'on n'est pas dans l'écologie, pas du tout à l'époque, on a une réflexion générale de tous les gens qui étaient concernés. Et c'est là où on a inventé équitable Nord-Nord. On a dit, s'il faut un effort sur la chimie, nous, on se dotera, si on est capable de faire cette entreprise, on se dotera de prix, d'un prix de base. On la paiera pour ne pas la jeter, puisqu'elle se jetait. Et s'il faut un effort sur la chimie, et on a été voir des vétérinaires pour la dangerosité des produits, nous, on fera un effort sur le prix. Voilà. Donc, vous voyez, on avance toujours avec simplement des situations vécues et des traitements de situations vécues. Alors, pour la suite, en fait, on n'a pas eu de problème aussi, c'est-à-dire que l'investissement a été fait par chaque personne sur son épargne dans son domaine d'activité. Et puis, donc, on a fait, pour faire la coopérative, juste, on a mis tout ça ensemble. Voilà. Et puis, ça va marcher, c'est-à-dire, oui, alors la chose aussi qu'on doit dire dans l'ADN d'Ardelaine, alors, on fait beaucoup de visites sur le site, on reçoit entre 15 et 20 000 personnes par an, depuis 90 à peu près. Et donc, ça fait, quand on le dit dans les visites de la coopérative, les gens, s'il y a des jeunes, ils bondissent. Parce que voilà ce qui s'est passé. C'est que dans nos milieux et dans nos copains, il n'y avait aucune formation commerciale. Donc, quand on a commencé, on avait le service, etc. On avait déjà des services. Mais on savait qu'il fallait un jour produire et vendre. Et on se posait la question du commerce. On n'avait pas de fichier. Et puis, on avait un copain qui, dans la Prole de Bonin, qui s'était mis à faire des meubles. Les meubles néo-rustiques de l'époque. Alors, on imitait le vieux. Alors, il faisait ça, ça marchait très bien, mais il y en avait plusieurs autour de lui. Enfin, il y avait plein de gens qui s'y mettaient là-dedans, Et en fait, en le croisant, un jour, il dit, oh là, j'ai un problème, je ne sais pas ce qui se passe, moi, je ne vends plus, les autres vendent, je ne comprends pas. Puis, on le revoit 3 mois plus tard, il dit, ça y est, j'ai réglé la chose. En fait, il était en train de perdre son marché parce que son commercial était en train de faire fabriquer ses meubles à lui par son neveu. Voilà. Très simple. Et nous, on était en train de réfléchir sur le commerce et la production. Et on s'est rendu compte simplement que le commerce, c'est le pouvoir absolu. Si vous savez vendre, vous faites produire ce que vous voulez à qui vous voulez. Et alors que si vous avez un super produit que vous ne savez pas vendre, vous n'avez aucune chance. Et donc, on a appris à vendre. C'est-à-dire, on s'est lancé, voilà, on a fait des petits marchés, on a fait plein de choses. Et puis, après, on est arrivé au moment où il y avait les salons, et après, c'est parti. C'est parti. Mais par rapport à la vente directe, maintenant, on est le plus grand système de vente, circuit court, mais vente directe de personne à personne, d'Europe. Oui. C'est-à-dire autre chose aussi, En fait, on a une dimension européenne aussi à un moment, parce que ça marche dès que les salons sont arrivés, on était exactement en face de la demande. Et donc ça a marché. Ce qui fait qu'on était un salarié quand on a créé la coopérative en 82. En 89, on était 12 salariés. Et on a été aidé que par les aides à la création d'emplois. On n'a jamais été aidé autrement. Et mais en 82, on fait tout ce qui bouge en France. On fait aussi des petits salons d'artisanat. Et on fait aussi Chouga, Namur, Luxembourg, Bâle, Bologne, Navarre. Et alors c'est là où on va arriver à la suite de l'ADN. C'est que si on rajoutait 10 ans, on était des jeunes entre la fin des études et puis le début des vies professionnelles, vous voyez, ces âges-là. On mettait 10 ans de plus, mais on est devenus des familles, quoi. Il y a des naissances. Voilà. Et donc, sachant, on est en train de se rendre compte que pour garder la main sur le commerce, on est devenu des forains européens. On vit dans les camions. Donc, moi, j'ai fait 2 ans à Madrid, 2 jours pour aller à Madrid, de Saint-Pierreville. Ils faisaient les autoroutes, on dort dans le camion. Vous savez même pas où vous pouvez arriver en Espagne à l'époque. 6 jours de salon, vous restez 10 heures dans un salon, vous voyez ce que ça représente. 2 jours pour revenir, ça a toujours été rentable. Et là, on commence à se dire, mais on est fou, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans les camions? On vit dans les camions. Et parce qu'on avait changé d'âge dans la vie, simplement, eh ben, on s'est dit, on arrête tout ça, c'est une connerie. Il faut s'occuper de ce territoire, de la vie de ce territoire. Et c'est idiot d'aller... Entre-temps, je le dis maintenant parce que ça a une autre dimension aussi, on a, nous, déjà refusé du marché au Japon un produit d'authenticité française sans discussion de prix. Vous voyez, donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est la notion de territoire qu'on met devant. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut s'organiser, la France suffira pour arriver à alimenter, à créer des emplois, puisqu'il y avait la vocation de créer des emplois. Et donc, avec tout ce que je viens de dire, vous voyez à peu près, Ardelaine. Alors, c'est pas terminé, parce qu'après, il va se passer une autre chose. Il se passe une autre chose, c'est en 86, là, on est en 86, et on valorise la laine, on a fait plein de produits, puis en fait, on veut faire du tricotage. Or, il se trouve que Valence, c'est une ville du tricotage historique, avec Magakian, il y en a d'autres qui ont entendu venir, mais en fait c'est les Arméniens qui tenaient le tricotage depuis longtemps, et donc et c'est notre ville de référence de cette vallée, et donc on va chercher à s'installer à Valence. Et avant les zones franches, en fait, parce qu'on avait déjà des copains qui travaillaient à la justice dans les quartiers, et puis voilà, on est rentré, nous on a demandé à être dans les quartiers, et on a réussi avec des contacts. Et on a commencé à faire un travail sur le quartier. On a installé un département de la coopérative, en rez-de-chaussée des immeubles. C'est des quartiers, il y a 2 quartiers en l'accent. Maintenant, ça faisait 15-16 000 habitants avant, maintenant c'est 13 000. Voilà, c'est, vous voyez, c'est les quartiers où ça brûle, hein, où on a les voitures, moi maintenant. Et donc on s'est installé là-dessus, là-dedans. Et en fait, on avait négocié des appartements pour les gens qui travaillaient dans la coopérative. Et en fait, on a monté une association, puisque nous, on est éducation populaire, hein, on ne fait jamais que de la coopération économique. Et donc, avec une posture d'habitant, on a traité pratiquement comme les organismes qui s'occupent de ça, mais en tant qu'habitant. Et on a fini par avoir presque plus de résultats que les organismes. Et donc, ça, on a avancé comme ça. On a fait plein de choses avec les enfants. Ça sera raconté, le livre en train de se faire. Et alors, non, la dernière phase de ce qui a été fait, c'est qu'on a installé des jardins familiaux. Et maintenant, on est la plus grande surface de jardins familiaux en sud de France. Et on a 2 hectares de jardin, on a récupéré la réserve foncière de la Suisse. Voilà. Vous voyez, donc, et ça, c'est. Et en fait, c'est toujours. Alors, pour nous, avec le bilan, puisque moi j'ai un certain âge, c'est que c'est l'éducation populaire pour nous. C'est juste l'éducation populaire. C'est la manière de prendre les choses avec les gens. C'est pas pour les gens, c'est pas contre. c'est avec. Et quand vous mettez avec dans les problèmes et en partie prenante, eh ben vous avez plus de résultats. Ça va ?
Merci.
Je fais un balayage rapide. Hein.
C'est bon, mais impeccable.
Ça va ? Et sur le...
C'est bon, oui, oui, c'est ça que je voulais dire.
Ah oui, c'est bon.
Peut-être ce qu'on peut faire, c'est qu'il vous donne tous les livres.
Oui. Donc, comme je t'avais dit,
il voir un oui, alors il s'est fait plein de choses. Oui, on a fait d'autres choses aussi. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est un peu la démarche centrale. Mais on a fait aussi le réseau repas. On est fondateur, cofondateur du réseau repas, donc un compagnonnage. Ça, c'est les années 90. Qui a produit finalement une société d'édition. Alors, à chaque fois, on est face à des problèmes et on essaie de. Ce réseau repas. Il a fini par faire de la formation parce qu'on pensait qu'il y avait un vide de cette nature-là de formation. Ça dure depuis une vingtaine d'années maintenant. Et pourquoi une société d'édition ? Parce qu'on s'était rendu compte, et ça c'est intéressant, c'est que on avait commencé à faire le tour des alternatives à partir des années 90, c'est tout ce qui bougeait en France. Et alors ce qui était intéressant, c'est que on se déplaçait d'un lieu à l'autre pour, c'était des week-ends, deux fois par an, un printemps et automne. Et en fait, voilà ce qui se passait, chaque fois que vous étiez dans un lieu, ce lieu avait, par rapport à ce qu'il faisait, son histoire et son environnement, il avait ses propres réseaux. Donc le fait de se faire ça, ça nous a fait rencontrer l'alternative française. Au bout de 2-3 ans, on avait été dans 40 lieux, quoi. Enfin, au bout de 5 ans peut-être. Et à partir de là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, la société bouge tout le temps, mais c'est pas visible. Ça laisse pas de traces. Et ça laisse pas de traces parce que, en gros, c'est les standards de la réussite qui déterminent. Voilà, si vous êtes vu à la télé longtemps, vous êtes champion de foot, etc., c'est ça qui détermine que ça va aller jusqu'à la mémoire. Mais il y a des gens qui font des choses extraordinaires dans la société, et bien ça disparaît, ça ne laisse pas de trace, il n'y a jamais de trace de ça. Et donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on a dit, mais il faut que pousser à l'écriture, ces aventures sociales et collectives, voilà, qui sont souvent spontanées, hein, voilà, pour que... la mémoire ça reste, et maintenant il y a déjà une quinzaine de titres. Voilà, donc c'est une autre, à chaque fois c'est une aventure sur un sujet. Et puis après les choses se font d'elles-mêmes. Par exemple, le réseau, le compagnonnage, il continue, bien même, il commence à écrire des livres sur eux-mêmes, mais nous on ne s'en occupe pas. Hein. On n'est plus connecté.
C'est-à-dire, tu veux dire que les éditions repas ont leur vie propre
Non, on a été obligé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites d'abord informelles, on formalise nous toujours en deuxième temps. Mais dans le compagnonnage, au départ, le réseau, il était informel. Il n'y avait pas de... Et puis nous, en fait, comme on n'était pas un peu contre le centralisme, on n'avait même pas créé d'organisation et on faisait le secrétariat d'une... c'était juste qu'on faisait une réunion, on donnait une date et un lieu et un secrétariat pour préparer la réunion d'après, oui, pour simplifier au maximum ces choses-là. Mais dans le cas de l'édition, il fallait formaliser. Donc il s'est créé une association qui s'appelle Repas, qui s'occupe des livres. Là, c'est formalisé.
Et donc, si tu veux présenter un peu les titres qui correspondent finalement aux activités.
Oui, alors donc le chantier international, c'est donc c'est chantier ouvert au public, c'est le titre. Voilà, il y a même des photos vers le site au milieu. Mouton rebelle, c'est Herbelaine. Voilà. Après, ben, on a fini par intéresser des chercheurs. Donc ça c'est Gaudin, hein, Family Ster, Donc voilà, c'est un travail qui a été fait là-dessus. Donc ça veut dire, c'est pour montrer aussi que l'alternative, ça existe toujours et tout le temps. Il y a toujours des gens qui ne font pas tout à fait le standard. Et qui... Il faut savoir que l'aventure des poils Gaudin et puis en fait de tout ce qu'ils ont fait, c'est grandiose, ça dure un siècle quand même. L'air de rien, ça, l'histoire, on ne retient pas ça. On retient tout ce qu'on fait les uns les autres, les Anglais, les Américains, il y a les noms, c'est ce qu'on apprend. Et on n'apprend pas qu'il y a un gars qui faisait des choses extraordinaires. Il apprenait à nager aux enfants, il y avait la mixité, il y avait un théâtre dans l'école, etc., etc. Il y a des choses, et on est au 19e siècle. Hein. Voilà. Oui, ben voilà, il y a aussi l'histoire des CE. Maintenant, les CE, c'est devenu une chose, les coopératives d'activité et d'emploi. Et voilà, il y en a plein en France. Mais la plus grosse, c'est d'avoir 600 personnes à Paris, au Paname. Et en fait, ben ça, c'est la fondatrice qui explique plutôt la galère qu'elle a eue pour arriver à faire comprendre qu'on pouvait faire des choses comme ça. Voilà. Oui, c'est intéressant aussi, il y a eu... Et ça aussi, ça montre qu'il y a des cycles. Parce que nous, on était dans l'alternative, mais c'était plutôt c'est le faire ensemble qui a été notre truc. Puis en fait, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient dans habiter ensemble hein, dans les années 70-80. Et puis il y a eu des choses, même des immeubles qui se sont faits hein, comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là racontent leur histoire et en fait, ils sont en phase avec les gens qui vont faire exactement la même chose maintenant. Et c'est ça qui est incroyable. Vous voyez, ça revient à peu près avec les mêmes attractions. Alors, c'est ce que vous trouverez là-dessus, que j'ai amené, hein, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a le catalogue, il est sur des produits de laine, ça, il y a un site. Il y a toutes les, ça peut intéresser toutes les visites, les choses pédagogiques, tous les 6 mois, on fait tout ce qui se fait jour après jour comme animation. Et puis, si la dernière aventure, elle est intéressante. C'est-à-dire que, on appelle ça le courrier solidaire, c'est que c'est l'histoire du circuit court. Le circuit court, ça veut dire qu'on a appris à discuter en direct avec les clients. Et puis, il est arrivé un moment où il y a des clients, parce qu'on est en deuxième génération de clients et en deuxième génération d'agriculteurs. Donc, à un moment, il y a des clients qui ont dit... on avait déjà des gens qui devenaient des amis, qui hébergeaient, et il y a des gens qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Ardelaine? Parce qu'on se croisait tout le temps, et voilà. Et un jour, on a envoyé un catalogue, et puis on ne sait pas qui a eu l'idée, on disait, mais on n'a qu'à leur demander de devenir client solidaire formellement. Et le jour où on l'a demandé, on a eu 300 réponses. Voilà. Et maintenant, c'est 3000 personnes qui se considèrent comme clients solidaires. Alors, on n'avait rien demandé. Il y a des gens qui nous donnent des conseils, il y a des gens qui critiquent ce qu'on fait. Ils disent non, ça, il ne faut pas faire ça, comme ça, etc. Donc, c'est un dialogue. Et on est le dernier gros investissement, c'est un pôle d'excellence rurale. Donc, maintenant, on a la reconnaissance. Et en fait, l'État, il y avait État, région, département. Et en fait, l'État a réduit ses engagements. Donc, on dépense toujours plus. Et on a endetté la coopérative juste ce qu'il fallait pour ne pas prendre trop de risques, et il a manqué. Alors on a demandé aux clients solidaires. Alors on a demandé 150 000 euros, on a eu de suite 270. Il a fallu faire une deuxième opération 50 000 pour absorber. Donc ça veut dire que... Et c'est pour ça que c'est presque le chantier à venir, mais nous, les fondateurs, on est à la retraite maintenant, ce sera... pour les suivants, mais ça serait d'arriver à ce que tout le monde discute entre les paysans jusqu'aux clients, dans la même filière, puisqu'on a intégré une filière. Voilà. Et alors ça, c'est l'exemple, c'est la feuille de chou qui circule entre Ardelaine et... Ouais, c'est tout ce que j'ai amené.
La possibilité d'avoir un quart d'heure, 20 minutes ou un quart d'heure de bar et de bibliographie, de discuter à bâton rompu, et après on reprend.